On ne peut pas vous dire que le premier trimestre qui se termine, et comme vous le constatez, nous n'avons pas beaucoup avancé, chronologiquement parlant, tout au moins.
Je peux laisser ?
Oui. Alors, je vous dis cela parce que je suis toujours inquiet sur le travail que vous faites personnellement ou que vous ne faites pas. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, jusqu'à présent, quelles sont les lectures personnelles que vous avez faites. Est-ce que vous comptez essentiellement sur le cours que vous suivez ou bien est-ce que déjà vous avez fait des lectures personnelles? Alors j'attends une réponse. Qu'est-ce que vous avez lu jusqu'à présent?
J'ai commencé à lire un livre Sein im Ruhe, un nouvel livre.
Oui.
Le matérialisme dans la pensée arabe, islamo-arabe. Parce qu'en même temps, je n'ai pas fini.
Vous n'avez pas fini?
Non.
En arabe, le maddir, le fikr al-arabi, le fikr al-arabi islami. Bon, on va voir tout à l'heure si.
Le nazaat al-maddiya.
Bon. On va voir si, si vous avez le droit de commencer par ce livre.
Oui, non, c'est quoi, non? C'est une thèse.
Nous allons voir. Parce qu'il ne s'agit pas de lire n'importe quoi, ce qui vous tombe sous la main. C'est un livre que vous pouvez lire à condition que vous soyez préparé pour pouvoir le lire. Or justement, vous n'avez pas la préparation nécessaire pour pouvoir apprécier ce que cet auteur peut dire sur un sujet si controversé et si difficile à traiter.
Parce que moi j'étudie la philosophie.
Oui. Ça, mais en ce qui concerne notre sujet, vous n'avez encore rien lu. Eh bien, voilà déjà une indication. Et vous?
Moi non plus.
Non plus. Ceux qui ont lu quelque chose, lèvent la main.
J'ai lu l'islam hier aujourd'hui.
Oui.
Alors, j'ai trouvé que la première partie était très très coulante, très facile à lire. Et j'ai pu comprendre. Mais la deuxième partie.
Vous n'avez pas compris?
Non, c'est pas que j'ai pas compris, mais j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre.
Ah, l'essentiel, c'est que vous compreniez, peu importe le temps que vous y mettez. L'essentiel, c'est de comprendre.
Oui.
Alors, quand vous ne comprenez pas, je vous ai dit, lorsque vous lisez un livre qui vous semble difficile par sa terminologie ou par les problèmes qu'il soulève, je vous ai demandé, au fur et à mesure de votre lecture, de noter les points que vous ne comprenez pas et de nous les proposer ici pour que nous en parlions. Bien sûr. Bien sûr. Oui, ça, le cours, ça sert à cela. Oui. Oui, bien sûr. Évidemment, lorsque vous lisez même votre livre, par exemple, normalement, si vous le lisez avec un œil critique, vous pouvez retenir un certain nombre de problèmes, nous les proposer à tout le monde ici, de façon à ce que tout le monde en profite et que nous puissions les étudier et les intégrer à notre cours. C'est à cela aussi que doivent servir les lectures que vous pouvez partager ainsi avec vos camarades. Bien, et vous, qu'est-ce que vous avez lu?
Moi, je suis plutôt en train de lire deux livres, celui de Jacques Le Goff pour un autre Moyen-Âge.
Oui.
Qui paraît intéressant.
Oui.
Sauf que la partie sur Michelet, que tu n'as pas dit l'importance de ça, ça me paraît.
Oui,
donc j'ai dépassé cette partie-là et j'ai commencé à lire le temps et la notion de temps et de travail au Moyen-Âge.
les marchands au Moyen-Âge.
Oui, c'est ça.
Le temps, le temps de l'église et le temps des marchands.
Voilà.
C'est très intéressant.
Ça, c'est très intéressant. Et le livre de Claude Pen sur l'histoire.
Oui, oui. Ça, c'est un manuel, ça n'est pas un livre. C'est-à-dire, ça, vous le consultez constamment. Et vous devez tous le posséder. Le livre de Claude Kahn, l'islam des origines à l'Empire ottoman. Ça, c'est un livre que vous devez non seulement lire comme ça, mais consulter constamment pour pouvoir préciser chaque fois les problèmes qui caractérisent chacune des époques que nous abordons.
Le contexte.
Oui, le contexte. Le contexte historique général. Ça, c'est un manuel, ce n'est pas un livre de lecture.
Il est un peu sec.
Il est sec, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas... Il est sec, alors là aussi, s'il est sec, il y a des choses que vous... qui sont obscures, vous les notez, vous les proposez ici. On peut aussi en faire objet de clarification ici. Vous avez l'impression que ceci ne fait pas partie du cours. Or, c'est tout à fait essentiel. C'est une mise au point tout à fait essentielle. Je ne parle pas avec lui seulement, je parle avec tout le monde normalement.
Et le territoire de l'historien, je l'ai consulté, il paraît que c'est un livre très technique.
Oui, il est très technique. Encore une fois, il ne faut pas se laisser impressionner par les livres très techniques. Normalement, vous pouvez aborder n'importe quel livre en ce qui concerne les problèmes de l'histoire, et encore une fois, je conçois que certains problèmes vous arrêtent. L'essentiel, c'est de savoir lire le livre, c'est-à-dire de pouvoir relever éventuellement les choses qui, pour vous, sont inconnues, difficiles, et de nous les apporter ici pour que nous en fassions l'objet d'explications ensemble. Donc, il n'y a pas de... Il ne faut pas me dire toujours ça c'est trop difficile, ça c'est trop technique. Les livres techniques, ce sont des livres généralement qui vous apportent justement des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres lectures? Oui.
J'ai lu un bouquin en arabe, Al-Islam Muntala Kullajini, Mustafa al-Arabe. Et j'ai lu aussi quelques articles, ce sont vos articles, dans l'histoire des Arabes.
Qui s'appelle comment?
C'est pas un bouquin, mais c'est l'esprit. C'est dans un
recueil d'articles. Oui. Bon. Oui, ça, si vous avez fait la photocopie, c'est déjà un bon pas. Oui, oui. Voilà un livre aussi qui pose des problèmes. Je ne sais pas comment vous avez lu ce livre et quel effet ça a eu sur vous, mais ça pose des problèmes. Il ne vous a posé aucun problème. Eh bien, c'est dangereux. S'il ne vous pose pas de problème, c'est dangereux.
C'est dans le courant de ce qu'on fait là. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de contradictoire.
Oui.
Il a parlé à propos de la femme, comment elle était dans le Jahiliya et comment elle est devenue dans l'islam et jusqu'à ce moment-là. Dire la femme à travers de l'histoire arabo-musulmane.
Oui. 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 Vous savez que Mustafa Sadiq al-Rafi'i est un auteur égyptien et qui a joué un rôle important dans le mouvement des idées dans les années 30 et 40. Et il a été en particulier un adversaire de Taha Hussein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si nous disons que c'est un adversaire de Taha Hussein, c'est-à-dire qu'il avait des positions très conservatrices, très traditionnalistes sur le plan de l'utilisation de l'histoire de l'islam. Et c'était le moment où Taha Hussein, au contraire, justement, représentait l'ouverture historique pour l'étude des débuts de l'islam. Voilà pourquoi je vous dis, si vous lisez un ouvrage de Mustafa Sadiq al-Rafi'i sans que vous vous posiez des problèmes, comment utiliser cet ouvrage dans le cours, encore une fois, que nous faisons, ça prouve que vous n'avez pas encore d'inquiétude méthodologique. Or, quand vous lisez un ouvrage, il faut toujours vous demander dans quelle ligne méthodologique ou dans quelle ligne, je n'ose pas prononcer le mot devant vous pour ne pas vous effrayer, mais disons, je vais quand même le prononcer parce qu'il n'y en a pas d'autre, épistémologique, se situe votre auteur. Ça, il faut toujours vous le demander. Il ne faut pas lire n'importe quel livre et dire, bon, il dit des choses à peu près semblables, c'est équivalent, donc on peut lui faire confiance. Non. Il faut une critique.
La question, c'est pas la question de confiance, c'est la question d'essayer de voir le plus possible et après de formuler ainsi un critère.
Oui, non, mais c'est très bien, je ne vous reproche pas de le dire, hein, c'est très bien, au contraire, j'encourage toutes les lectures. Je vous dis simplement que quand vous lisez un ouvrage, quel que soit cet ouvrage, il faut toujours avoir en tête des idées de critique méthodologique. C'est tout à fait nécessaire.
De mot critique.
Critique, c'est-à-dire l'évaluation. Ça n'est pas le fait de dire c'est mauvais, il ne sait pas, il n'est pas au courant. C'est pas ça la critique. C'est l'évaluation de sa méthode par rapport à d'autres méthodes, de ses positions scientifiques par rapport à d'autres positions scientifiques. C'est donc une étude comparative par rapport à d'autres courants qui sont représentés par d'autres chercheurs. Par exemple, Mustapha Sadr al-Rafi'i, si vous le lisez, il faut absolument que vous compariez à ce que représentent Taha Hussein et d'autres, Mazini, Al-Aqad, etc., au même moment, pour pouvoir critiquer, c'est-à-dire faire la comparaison sur la valeur de ce que chacun apporte.
J'ai lu un livre dernièrement, c'est-à-dire la critique de la pensée religieuse, d'un certain docteur qui s'appelle Adam,
Jalal Al-Ab. Oui, Sadr Jalal Al-Ab.
Alors, ce que j'ai constaté, c'est-à-dire il met en cause certains critères divins.
Oui. Et alors? Ça ne vous convient pas.
Non, c'est pas question de ça me convient ou ça me convient pas. C'est la vérité s'il y a une vérité, c'est-à-dire.
Oui.
Mais c'est-à-dire, il a contenté d'attaquer, c'est-à-dire la religion chrétienne et musulmane.
Vous faites une critique, c'est-à-dire vous comparez cette attitude-là à d'autres attitudes de musulmans qui, eux, font exactement le contraire, à savoir qu'ils font l'apologie, au contraire, de l'islam. Alors,
ce qu'il a constaté, c'est-à-dire, vraiment, c'est réel, mais on ne peut pas le croire, c'est-à-dire, il y a quelque chose en lui qu'on ne peut pas le...
Oui, on peut pas
se débarrasser. Alors, par exemple, il a ajouté au critère divin, c'est-à-dire, si Bézallah, Azaf al-Khub.
Oui.
Voilà pour se dire.
Bon, et vous voyez, vous prenez. Alors, qu'est-ce qu'il faut de tout ce que vous venez de dire là, vous, etc. Vous allez lire des ouvrages qui ne s'imposent pas à l'heure où nous sommes, dans le cours, tout au moins, je parle du point de vue du cours. Vous pouvez les lire si vous voulez, mais en dehors, ou quand vous avez des loisirs, en ce moment vous avez un programme à faire, vous avez une découverte à faire. Par exemple, nous avons parlé, je vous ai parlé très très brièvement de Mohammed. Trop brièvement, je n'ai pas fait de cours sur Mohammed, je n'ai pas le temps. On est déjà en retard. Alors, normalement, vous devez lire au moins deux livres sur Mohammed. Deux. Et justement, dans une intention critique, comme je vous le dis. Vous devez lire un livre fait par un musulman traditionnel, conservateur, croyant qu'il ne va rien déranger, il va vous faire plaisir. C'est Hamidullah qui a écrit La vie de Mohammed. Mohammed Hamidullah. C'est un musulman tout à fait orthodoxe. Il ne casse rien du tout. Alors, en face de cette position, vous avez une position extrême aussi, mais alors dans le sens de l'histoire positive et même positiviste, c'est le livre de Rodinson, Maxime Rodinson, qui s'appelle Mahomet. Bon, voilà deux lectures que vous devez absolument faire, parce que pour parler de Mohammed, il ne faut pas en parler d'une manière conformiste. Il faut en parler en posant les problèmes que rencontre l'historien de la pensée de Mohammed. Par exemple, en juin dernier ou en octobre, je ne me rappelle plus, j'ai donné à vos camarades qui étaient là l'année dernière, au sujet d'examen, les problèmes posés par l'étude de la personnalité de Mohammed. Vous voyez le sujet. Les problèmes posés par l'étude de la personnalité. Alors, vos camarades, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont raconté des âneries. Ils m'ont raconté des âneries qui traînent partout au sujet de Mohammed. Mohammed a épousé Khadija, il a fait des caravanes, etc. Il a reçu la révélation de Dieu. Des lieux communs absolument sans intérêt. Alors que le sujet demandait les problèmes posés. Il y a des problèmes historiques, des problèmes méthodologiques. Et pour découvrir ces problèmes, il faut confronter ceux qui présentent la personnalité de Mohammed comme une figure mythique, décalé, décroché de l'histoire. C'est ce que vous trouverez chez Hamidullah, qui ne fait que transposer la Sirat ibn Hisham du 8e siècle, sans rien y changer, sans aucune méthode critique. Et puis de l'autre côté, vous avez au contraire Robinson, qui applique au même sujet une méthode marxiste, avec tous les postulats de la philosophie marxiste en ce qui concerne l'étude de la religion qui, pour la pensée marxiste, est considérée comme une idéologie faisant partie de la superstructure, comme disent les marxistes. Remarquez que Robinson est un marxiste intelligent et très souple, ce n'est pas du tout un marxiste dogmatique. Néanmoins, il utilise les positions, les postulats ordinaires de la méthodologie et de la sociologie marxiste. Alors, ça pose aussi des problèmes. Autrement dit, il y a encore une recherche à faire pour pouvoir parler d'une façon, disons, acceptable, scientifiquement parlant, de la personnalité de Mohammed. Et ce sont les problèmes, justement, de méthode qui sont plus importants que les petits détails que vous connaissez et qui traînent partout au sujet de sa vie. Voilà comment il faut s'initier à un sujet. Si vous refusez de faire ces lectures, vous ne connaîtrez pas, vous ne serez pas au courant. Encore une fois, je vous dis, si vous faites ces lectures, vous pouvez ramasser les questions que vous rencontrez, et puis à ce moment-là, on peut en parler, on peut y consacrer un peu de temps dans le cours, mais moi, je ne peux pas vous faire un cours absolument détaillé sur chacun de ces sujets. Sur Mohammed tout seul, on pourrait bien passer 3 ou 4 mois. Ça n'est pas possible. On n'a pas le temps. Voilà pourquoi, chemin faisant, j'insiste, je vous indique des lectures qu'il est absolument indispensable de faire, qui sont à votre portée. C'est des ouvrages en français, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Pour ceux qui connaissent l'arabe, vous pouvez lire directement Ibn Hisham, par exemple.
S'il vous plaît.
Oui.
Est-ce que vous pensez du Mohammed de Demonbin?
Oui, Mohammed de Demonbin, c'est un exposé, disons, modeste, c'est-à-dire qui n'utilise pas des postulats très rigide et très affirmé, comme c'est le cas soit du musulman conservateur, soit du marxiste. Il expose les faits en essayant simplement de les trier, de les clarifier. C'est un exposé pédagogique des notions que l'on rencontre dans la tradition musulmane.
Et celui qu'on a déjà, on doit acheter un autre ?
Comment ? C'est-à-dire que De Mombin, justement, ne vous force pas à poser des problèmes. Parce qu'il vous livre simplement une matière triée, il vous donne des faits, mais il ne pose pas des problèmes. Or, il est essentiel pour un sujet comme Mohammed, et pour vous, il est tout à fait essentiel que vous sachiez poser des problèmes, de critiques historiques. Il ne s'agit pas, autrement dit, d'apprendre des choses et de les répéter, ça n'est pas ça que je vise. Ce que je vis, c'est que vous ayez des inquiétudes méthodologiques pour savoir comment il faudrait améliorer aujourd'hui l'étude de ce sujet, car c'est un sujet ouvert, ça n'est pas un sujet clos.
On devrait aussi prendre celui de Robinson.
Bien sûr, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis.
Et celui de Watt. Aussi.
Alors, il y a un autre, celui de Watt aussi, oui, vous pouvez prendre celui de Watt ou celui de Robinson.
C'est la même approche.
Oui. Watt est quand même plus classique, c'est Watt est lui-même un religieux. Alors il a un esprit religieux et il n'approche pas le problème de la religion comme un marxiste. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un autre livre sur Mohammed qu'il serait bon de lire, ça s'appelle justement Le problème de Mahomet. Le problème de Mahomet. Et cette fois écrit par Régis Blachère. Régis Blachère, aux presses universitaires, Le problème de Mahomet. Ça, pour vous, c'est un livre très intéressant parce que pédagogiquement, il vous initie à la lecture philologique des textes anciens, à la critique philologique des textes anciens. C'est-à-dire qu'il pose des problèmes d'authenticité de toutes les traditions qui sont rapportées dans la Sirat ibn Hisham. Oui.
Pour
Oui. Oui. Normalement, je les autres années, je donnais des sujets d'exposé. Mais là, cette année, vous êtes tellement nombreux que j'exclus la possibilité de faire des exposés, parce qu'il n'est pas possible de faire parler tant de monde. Mais la solution que nous pouvons retenir, c'est précisément la solution des lectures que je vous demande de faire. Et chacun d'entre vous qui a fait ces lectures, supposez que vous ayez lu par exemple les deux ouvrages que je viens de mentionner, vous notez tous les problèmes que vous rencontrez, et la prochaine fois, ou la prochaine séance, vous dites, voilà, j'ai lu Robinson et j'ai lu Hamidullah, voilà les problèmes que ces deux livres me posent. Et je voudrais qu'on les discute ensemble. Alors à ce moment-là, nous pouvons à la fois donner la parole à l'étudiant qui a lu et faire des discussions ensemble.
On ne pourrait pas faire des exposés assez courts par vous, c'est-à-dire chaque quatre personnes pourraient faire un petit exposé.
Oui, je ne sais pas ce que ça donnerait étant donné le nombre que vous êtes, et aussi l'autre inconvénient, c'est que nous avons une heure et demie seulement et la matière est encore très 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 vaste, et si nous faisons des exposés, ça va être pris sur le cours. Mais enfin, si vous voulez, on peut faire quelques essais au deuxième trimestre.
Mais là, les exposés, ça peut être non pas par oral, ça peut être comme une sorte de dossier de ce que l'étudiant a essayé de voir.
Oui.
Mais avec ça, il peut savoir pour vous savez bien qu'est-ce que c'est les examens, et vous savez bien aussi le sujet même de l'examen, ça donne plus ou moins d'ambiguïté.
Oui.
Je sais ce que c'est.
Bon. Bon, alors de toute façon, pour la prochaine fois, justement, je vous demande de faire cette lecture et nous pouvons pour la prochaine fois discuter de ces lectures à l'aide de vos questions et non pas à l'aide de ce que je dirais moi-même.
Un point de détail, mais je crois qu'il est important. Pourriez-vous écrire les noms au tableau?
Oui. Non, vous avez raison. Oui, oui, oui. Mais vous avez raison, vous avez raison. Il faut me rappeler à l'ordre parce que je pars de l'idée que vous êtes tous des arabisants et que vous connaissez tous un peu les noms que je prononce. Alors, par exemple, parmi les noms que j'ai prononcés.
Le premier, j'ai pris.
Oui. Bien, alors c'est entendu, hein. La prochaine fois j'attends vos questions sur le problème, si vous voulez, alors sujet d'exposé, les problèmes posés par l'étude de la personnalité de Mohammed. Voilà, c'est un sujet de travail. Et on va voir comment vous allez vous débrouiller. Les problèmes posés par l'étude de la personnalité de Mohammed. Bien, alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre propos que nous avons commencé sur le Coran. Alors là aussi, je vous ai indiqué dès le début de l'année un petit que sais-je à lire, j'espère que vous l'avez déjà fait. Oui, un petit que sais-je qui s'appelle le Coran. Qui a lu le petit que sais-je sur le Coran? Voilà, il y a 3 ou 4 mains.
Moi j'ai lu le Coran.
Ah, mademoiselle, je l'ai dit. Je l'ai dit plusieurs fois. Moi je me souviens bien, vous savez.
C'est par Antoine
Lichère. Oui.
C'est par qui, monsieur?
C'est par Régis Lachère, c'est le même. Un petit que sais-je, facile à lire, intitulé Le Coran. Alors, ça me dispense de vous dire des choses élémentaires. Parce que je préfère vous dire des choses qui ne se trouvent pas dans ce que sais-je. Et par exemple, aujourd'hui, je voulais vous parler de la sourate An-Nisa, les femmes, que je vous avais demandé aussi de lire. Soit en arabe, de préférence en arabe, pour ceux qui peuvent déjà lire le texte arabe, et pour ceux qui ne le peuvent pas encore, dans une traduction française. Qui a lu la sourate An-Nisa? Oui, en arabe ou en français, selon vos possibilités. Vous l'avez lu entièrement? D'un bout à l'autre? Bien. Ben ça fait plaisir, je vois plusieurs mains. Et alors, quelle est votre impression? Quelle est votre impression? Rapidement. Votre impression. Il y a tout et n'importe quoi. Oui, il faut dire votre impression comme ça, telle qu'elle est. C'est un grand désordre. Ben dites-le, c'est un grand désordre. Je veux vous l'entendre dire.
On s'attend à une part plus large consacrée à la femme et on se rend compte que c'est plutôt un traité de droit économique et social.
Oui. Traité de droit, c'est peut-être un mot trop fort, ça n'est pas un traité. Il traite de sujets de législation, ayant trait à la législation. Qu'est-ce que c'est que ce... Bon, oui, qu'est-ce que vous... Comment ?
Plus ou moins des articles
d'une
constitution.
Oui, n'employez pas des mots trop forts. Une constitution, c'est beaucoup très, c'est beaucoup trop présomptueux.
C'est pas...
Oui, non mais là, disons modestement qu'il y a un certain nombre de dispositions législatives concernant en particulier le mariage, le statut des femmes, le statut des orphelins, le statut social des orphelins, des marginaux, etc. Bon, à part cela, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette sourate? À part cela, elle ne vous pose aucun problème? Les musulmans parmi vous, ça, vous accueillez ça normalement?
Ben, je
personnellement, je vois que par rapport à moi-même, le droit que nous suivons dans notre pays, malgré que c'est un pays musulman, il n'y a rien de ce qui est. Donc, le droit appliqué et le droit qu'on le trouve, la législation qu'on trouve dans le Coran, c'est vraiment plus ou moins. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et bon, là, on suit.
C'est tunisien.
Oui. On suit des règlements, quelquefois qui sont islamiques, mais c'est pas toujours. Et quelquefois c'est laïque, c'est-à-dire pur et simple, c'est l'européen. Ben, c'est sûr que c'est le Coran en grec, où il y a des par exemple, une œuvre. Bon, l'œuvre, on a les mêmes rapports.
Oui, il faut traduire, il y en a qui ne comprennent pas. Pour
l'héritage,
les questions d'héritage. C'est là que se trouve le fameux verset qui constitue un des obstacles actuels pour la modernisation de la législation dans les pays d'islam. Wali Zakari, Mithlu Hadul Unsaini. C'est-à-dire, le mâle doit recevoir le double de la part dévolue à la femme. Bon. Oui, qu'est-ce que... Arud. Oui. Ah. أخاف أن لا يتسع لنا الوقت ولكن قل باختصار ماذا تريد باختصار
أن الرجل في الإسلام مفروض يتكفل نفقات المرأة مش هنا في أوروبا الرجل ملوش جوع في نفقات المرأة الرجل لابد أن يكفل نفقات المرأة فمن العدل أن طبعا أن هو النفقات يتحمل نفقات ونفقات المرأة فإذا لكي يتحمل نفقات الاثنين لابد أن يكون له نصيب المرأة أو نصيبه
بون هذا هو التعليل بون très très brièvement hein, parce que sinon on ne s'en sortira pas vous voyez je désire vous faire parler mais je regarde aussi l'heure oui j'ai quelqu'un qui n'a pas parlé là oui s'il vous plaît
je vois qu'il est permis à l'homme d'avoir quatre femmes et permis à l'homme d'avoir quatre femmes et pas à la femme donc d'avoir plus que d'un.
C'est vrai, on va
plus loin. Oui, mais laissez-la parler. Nous recueillons un certain nombre d'impressions, c'est très intéressant.
Si vous. On voit le problème, c'est-à-dire le problème d'enfants qui se posent. Mais vu maintenant que c'est-à-dire bien la contraception, je crois qu'il pourrait être permis.
À quoi ?
Je ne sais pas.
Être permis quoi ?
Que
la femme ait plusieurs hommes.
Le problème était des enfants.
Qui s'appliquait avant, qui s'appliquait
le moyen contraceptif n'existait pas avant. C'est pour ça que Dieu a limité pour la femme.
Ah, au niveau de l'application.
S'il vous plaît. Quelqu'un qui n'a pas parlé, oui.
Moi, j'ai pas parlé. C'est peut-être expliquer tout ça quand la femme est inférieure à l'homme. Oui.
S'il vous plaît.
Oui.
S'il vous plaît.
Alors, vous je constate que Mahomet a donné certains droits à la femme, selon le Coran toujours, certains droits qui viennent à peine d'être d'être permise pour les femmes européennes, que les femmes arabes avaient avant elles, depuis le Coran. Par exemple, le droit de le fait de demander le divorce, si elle en a des raisons valables. Demander le divorce elle-même, pas seulement le mari. Parce que ça fait pas longtemps qu'une femme française peut demander le divorce et que ça lui soit
c'est la même chose.
L'homme non plus n'est pas dans le droit de la réparation.
C'est la même chose. Quand même, on dit pas le mariage, c'est la même chose.
Bon, ça va. S'il vous plaît. Non. Il ne faut pas que. Nous recueillons. Non, vous voyez que c'est pas possible de faire des exposés. Mademoiselle.
Mohamed avait libéré certaines choses. À cette époque, c'était révolutionnaire, d'accord. Mais de nos jours, je ne constate pas de jugement. Il n'y a pas d'évolution dans ce domaine, surtout lorsque c'est un mariage religieux. C'est l'homme qui contracte un mariage avec le père de la fille. La fille est complètement retirée. Et quand il s'agit de divorcer, il suffit qu'il aille chez le cadi pour prononcer telle femme et pendant un
temps. Alors, répudiation. Bon.
Ça, c'est le tour de l'homme et de père de la fille. Ça, c'est pas la faute de l'islam. C'est parce que.
Oui. Non.
L'ont mal compris, l'ont mal
exploité. Écoutez, s'il n'y a pas de discipline, je vais arrêter cette discussion. Encore deux ou trois interventions. Oui, rapidement.
Ce que je peux en déduire en tant que l'histoire, c'est que le Coran, il est encore une matière de réflexion et d'étude encore profonde, même s'il était avec nous depuis longtemps, mais il est encore là pour être étudié. Et on a encore plusieurs choses que nul n'est encore a eu la possibilité de faire sortir plusieurs autres choses.
Tout ce qu'il contient. Bon. Oui, monsieur là-bas.
Je voulais tout simplement rectifier le cas de la Tunisie tout à l'heure. Il y a les deux codes, il y a le code pénal napoléonien et puis il y a le code musulman. Et pour ce qui est de l'héritage, cela a été proposé. Il y a une régression ou un mouvement religieux très fort en ce moment. Ce qui fait, ils sont retournés. Enfin, la loi n'est pas appliquée.
Oui.
Concernant l'héritage, c'est uniquement le
code musulman. Bon, de toute façon, il faut savoir que dans tous les pays musulmans, il y a le problème que l'on appelle al-ahwal al-shakhsiyya. C'est-à-dire le statut personnel, le statut de la personne, le statut juridique de la personne, tout ce qui relève du statut de la personne, mariage, répudiation, filiation, succession, dans tous les pays musulmans encore aujourd'hui, est directement lié aux textes coraniques, comme ceux de la sourate Nisa, que nous allons expliquer, et à des hadiths, c'est-à-dire des traditions prophétiques. Alors, selon les pays, il y a des efforts qui s'accomplissent très très difficilement pour essayer de faire bouger les choses dans les ahwal shakhsiyya. C'est le point de résistance le plus dur de la charia, de la loi musulmane. Jusqu'à présent, dans tous les pays, y compris la Tunisie, bien sûr, bien que la Tunisie se classe effectivement parmi les pays qui ont esquissé depuis l'indépendance un mouvement vers une certaine laïcisation. Voilà comment il faut dire les choses, prudemment, n'est-ce pas? Il y a un mouvement vers une certaine laïcisation, mais étant donné le contexte socio-politique de la Tunisie actuelle, il y a effectivement, même en Tunisie, un certain retour offensif d'un islam conservateur. Il y a une contestation même des mesures qui ont été prises au début de l'indépendance sous prétexte que ces mesures lèsent l'esprit de l'islam. C'est toujours l'argument qui est utilisé. Mais en réalité, c'est lié à une évolution sociale et politique que vous connaissez. Et le problème soulevé par cette législation, évidemment, ça n'est pas un problème de pur droit, c'est un problème qui a pour enjeu des luttes sociales et politiques dans chaque pays. Et dans un pays comme l'Égypte, il y a aussi une offensive encore plus forte de l'Égypte, et sa signification, je vous renvoie à ce que j'en ai dit dans mon livre là sur l'islam hier demain. C'est un mouvement très important. Bien. Alors, les réflexions que vous venez de faire au sujet de la Sourate Nissa, rapidement, oui, je ne vais pas vous frustrer. Parlez.
Je vais reprendre la question de l'héritage et je vais en servir un moment pour le tableau, si vous me permettez.
Ah non, non, c'est trop long. Dites.
D'une façon mathématique pour clarifier la question de l'héritage.
Oui, oui, non. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je pensais que c'était juste une remarque. Si vous voulez faire la remarque comme ça, sans une démonstration, on peut vous croire sur parole, sans la démonstration. Dites ce que vous voulez dire.
Supposons par exemple que l'héritage, c'est-à-dire l'héritage laissé par le père, soit 2/3.
Oui.
Par exemple. Les 2/3 sont prises par
l'homme. Oui.
Le 1/3 restant, c'est pour la fille.
Oui.
Bon, en cas de mariage, c'est-à-dire l'homme va se marier avec une femme qui doit arriver avec 1/3, c'est-à-dire la famille va constituer 2/3, et la femme qui va, c'est-à-dire avec un autre couple, ça formera un 2/3, et puis. C'est-à-dire, c'est l'homme qui se chargera avec le 2/3, avec son travail, c'est-à-dire de nourrir la femme, c'est-à-dire de bas en haut.
Oui, oui, bon.
Donc c'est...
Bon, on a compris. Nous avons compris. Ça va. Bon. Alors, nous pouvons commencer, s'il vous plaît. Tout ceci prouve à quel point il est absolument indispensable de reprendre tous ces problèmes-là à la base. À la base, il faut tout effacer. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent dans cette salle est nul et non avenu, sans intérêt. Et cependant, tout ce que vous avez dit existe. Tous les arguments que vous avez apportés, le type de discussion qui vient de s'instaurer, c'est exactement le type de discussion qui a cours depuis l'Atlantique jusqu'à l'Indonésie. Dans tous les milieux musulmans, sans exception, c'est ce type d'échange qui a lieu avec ce même type d'argumentation, entre guillemets, avec ce même type d'ignorance, je m'excuse, ignorance profonde, totale, des problèmes de base qui sont posés par toute cette histoire, qui est une histoire très compliquée. Et on la traite avec des lieux communs affectifs. Affectifs d'abord, parce qu'il s'agit de religion, et quand il s'agit de la religion, c'est l'affectivité qui est débordante et qui parle, l'affectivité que l'on a reçue avec le lait de sa maman, et puis, ce sont les préjugés instaurés par les discours officiels dans chacune des sociétés. Les discours politiques officiels et la manipulation idéologique de la religion, entre guillemets, par les pouvoirs officiels. Et voilà pourquoi ces problèmes sont traités de cette manière absolument ignorante. Je dis les choses brutalement pour aller vite. Je n'ai pas le temps de nuancer. Rapidement.
Oui, rapidement. Est-ce qu'on pourrait savoir la condition de la femme exactement avant l'islam et si c'est par exemple le problème de l'héritage avant l'islam? Comme ça, on pourrait comprendre pourquoi Mohammed est venu avec cette nouvelle idée de partage.
Oui. Le problème important n'est pas de savoir quelle était la situation de la femme avant Mohammed et la situation de la femme avec Mohammed. Ce n'est pas le problème important. C'est un problème historique qui a quelque intérêt. Et de toute façon, il est certain, nous pouvons déjà poser cela si vous voulez, il est certain que la législation telle qu'elle intervient dans le Coran améliore la situation, disons, pas seulement de la femme, mais de la famille en général, par rapport à ce qu'elle était auparavant, en ce sens que, en particulier, il y a une certaine émergence, et j'insiste sur certaines émergences, de la personne humaine qui est considérée comme une personne ayant une vocation à une certaine autonomie, à une certaine liberté et surtout à une dignité personnelle. Ça, c'est un fait historiquement que nous pouvons considérer comme acquis à condition que nous ne dépassions pas, chronologiquement parlant, la période où Mohammed est intervenu. Il ne faut pas mélanger les problèmes. Et toute la discussion qui a eu lieu tout à l'heure avait pour postulat, c'est-à-dire comme quelque chose d'acquis, que ce que nous lisons dans le Coran est parfaitement homogène et parfaitement applicable dans les sociétés actuelles. Et l'histoire n'existe pas. Voilà le postulat. On nie l'histoire. En transposant un document qui est historiquement daté, et nous allons le voir, il est historiquement daté. Je vous l'ai montré la dernière fois avec la constitution de Médine, que ces affaires-là sont historiquement et sociologiquement datées, localisées. Et le problème est de savoir, voilà le problème important, le problème est de savoir s'il est légitime de généraliser une expérience que nous pouvons considérer comme révolutionnaire en son temps, de la généraliser à l'ensemble des sociétés humaines et de la généraliser par-delà toutes les évolutions historiques qui sont intervenues dans l'histoire des sociétés jusqu'à nos jours. C'est ça le problème important. C'est à cette question qu'il faut répondre. Cette question est d'ordre historique, elle est d'ordre philosophique et, si l'on veut traiter de religion, elle est d'ordre théologique. Or, ces trois domaines-là, je regrette de la changer. Cette question-là doit être posée après la question, encore une fois, historique, philosophique et théologique. Socio-économique, ça n'est pas très, très décisif pour le problème qui nous occupe. Ça peut exercer une pression qui peut imposer des conduites. Oui. Où ça touche bien sûr aux questions socio-économiques, mais je veux dire que si vous prenez un pays où un pays, s'il y avait par exemple un pays musulman extrêmement riche qui a un grand développement économique, etc., toute cette législation peut être jetée par-dessus bord et complètement changée. Donc il y a une pression de fait d'une situation économique. Mais cette pression crée une solution par la force, mais pas une solution de droit qui reposerait, comme je l'ai dit, sur une réponse aux problèmes théologiques et aux problèmes philosophiques posés par la question du Coran, qui est un document religieux qui intervient sur des problèmes de législation. C'est ça le problème essentiel. Et ce problème, la pensée islamique actuelle ne le traite pas. Elle refuse de le traiter. Elle le traite uniquement, soit d'une manière, encore une fois, politique, pour des raisons politiques, soit d'une manière idéologique et apologétique, en disant, comme les unes ont dit tout à l'heure, que l'islam a amélioré la situation et il a donné les droits aux femmes avant que les occidentaux ne les donnaient. Ça, c'est des arguments polémiques et apologétiques. Ça n'a rien à voir avec la question de fond, qui est encore une fois le problème de savoir comment un document religieux qui a été reçu comme étant la parole de Dieu règle des questions de statut personnel. C'est ça la difficulté. C'est ce passage qu'il faut réaliser. Comment passer de la transcendance de la parole de Dieu à des questions de droit courant, de divorce et de caddie et de justice et de partage de succession, un tiers ou un quart ou je ne sais quoi. C'est ça qu'il faut voir. C'est ce passage qui est important. Or, ce passage est un problème théologique redoutable. Alors, vous ignorez complètement l'aspect théologique du problème et vous, encore une fois, vous reprenez des questions absolument sans intérêt et de polémique. Parce que la question de pensée théologique, c'est beaucoup plus sérieux. Alors, les penseurs musulmans du 1er siècle, du 2e siècle, au moment où ils ont élaboré le droit musulman, eux avaient posé des questions de théologie. Tandis que les musulmans actuels ne posent plus de questions de théologie. Ils manipulent simplement une législation existante pour faire face à des besoins sociaux et politiques pressants. Voilà ce qui se passe. Voilà les enjeux. Voilà pourquoi, je le répète, et c'est pour cela que j'ai choisi spécialement cette sourate et non pas une autre. J'aurais pu choisir une sourate où il n'est question que de transcendance de Dieu. Si j'avais choisi Ar-Rahman ou Allam al-Qur'an, par exemple, bon, là, il n'est question que de questions vraiment religieuses. Mais j'ai choisi celle-là justement pour soulever devant vous ce problème qui est de grande actualité et pour lequel vous venez de le démontrer, vous qui êtes jeunes et qui êtes des citoyens actifs de ces sociétés, du moins en majorité, vous traitez ces problèmes avec une parfaite ignorance. Et pourtant, vous êtes le public cultivé, le public qui va à l'université. Que dire des autres? Que dire des autres? Alors, bon.
S'il vous plaît, est-ce que je comprends qu'on manque d'esprit scientifique? Et à ce propos-là, il y a un livre très très important, celui de Bachelard, La formation de l'esprit scientifique. Je crois que nous manquons d'esprit scientifique. Quand nous essayons d'analyser un fait, on reste dedans, dans le fait. On n'essaie pas d'en sortir pour le voir.
Eh bien, nous essayons. On va en sortir.
À ce propos-là, il y a un livre de Bachelard.
Oui, oui, je vais vous proposer d'en sortir justement. Allez. Alors, le problème qu'il faut poser, c'est. Comment lire le Coran? Voilà le problème. Le premier problème. Comment lire le Coran? J'ai écrit un texte que vous connaissez peut-être. Dans la traduction, je l'ai vu là quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a. Le Kazimierski, c'est vous, non? Hein? Oui, c'est ça. Oui? Voilà, dans cette traduction du Coran, chez Flammarion, il y a une introduction qui s'appelle justement « Comment lire le Coran ?» Alors, qui l'a lu? Vous ne lisez pas, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas moyen de travailler. Vous ne lisez pas. Vous préférez répéter les choses que vous lisez dans les journaux officiels, etc., qui vous mettent dans l'esprit toutes sortes de Bon, alors il faut lire ce texte, je n'ai pas le temps de le répéter devant vous, il est difficile, vous allez le trouver difficile, je vous avertis, et je vais essayer de vous donner quelques éléments pour pouvoir justement en tirer profit. Alors que veut dire cette question d'abord? Comment lire le Coran? Cette question veut dire que nous avons un texte qui se présente comme un texte religieux pour les musulmans. Ce que nous appelons le Coran, c'est la parole même de Dieu qui a été révélée aux hommes par l'intermédiaire du prophète Mohammed. Voilà la définition théologique que les musulmans donnent du Coran. De même que les chrétiens disent Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu incarné qui a pris forme humaine Dieu est venu habiter parmi nous, disent les chrétiens. C'est Dieu lui-même qui a pris forme humaine, et par conséquent, lorsque Jésus parle, c'est le Verbe de Dieu. Exactement ce que dit le Coran d'ailleurs. Innama Isa ibn Maryama kalimatun min Allah. C'est le Verbe de Dieu, c'est le Logos de Dieu. Alors pour notre esprit moderne, qui est rationaliste et qui ne connaît que les choses qu'il vérifie, évidemment, dire que le Coran c'est la parole même de Dieu, c'est une chose évidemment qui est difficile à concevoir lorsqu'on est à l'extérieur de l'expérience musulmane, de la foi musulmane, du système éducatif musulman qui vous permet, qui vous prépare à cette chose-là. Mais pour les musulmans, ça va de soi. Et non seulement ça va de soi, mais il ne faut surtout pas dire autre chose que cela. Car si vous dites autre chose que cela, c'est la catastrophe. Vous êtes kafir, vous êtes un infidèle et vous êtes excommunié, comme au Moyen-Âge, mis au banc de la société. Vous voyez par conséquent que l'enjeu est extrêmement important, et ceci depuis précisément 622, cette fameuse année 622 dont nous avons parlé, depuis l'an 1 de l'Égypte. C'est la position musulmane vis-à-vis du phénomène coranique. Alors nous, comme je vous l'ai dit, il faut, évidemment, nous ne pouvons pas travailler à l'intérieur de ce cercle. Ça n'est pas possible. On ne peut pas travailler avec un présupposé théologique, dogmatique, qui va nous imposer de voir les choses dans une perspective qui n'est ni historique, ni linguistique, ni philosophique. Nous avons à regarder ce phénomène et à l'analyser, et voilà pourquoi se pose le problème qui est difficile et qui est considérable. Comment lire ce texte? Car il faut lire ce texte tout en tenant compte de la manière dont la conscience musulmane le reçoit, d'une part, et d'autre part, de ce que ce texte est un texte écrit en langue arabe, et que, comme tous les textes, quel que soit le texte, il doit être lu selon les exigences de la grammaire, de la syntaxe, de la logique, de l'histoire, de l'appartenance d'un texte à une société, etc. Il faut faire intervenir absolument toutes ces considérations. Voilà pourquoi, pour lire cette sourate, comme pour lire n'importe quelle partie du texte coranique, nous allons procéder en quatre étapes. La première, on peut faire premièrement une lecture pragmatique. Empirique, pragmatique, empirique, ahistorique. Ahistorique, c'est-à-dire qui refuse de se référer aux données de l'histoire, aux impératifs du changement. Elle est ahistorique. Cette première lecture, c'est celle qu'on fait précisément les musulmans, disons, orthodoxes, jusqu'à présent. Deuxièmement, il convient de faire une lecture linguistique. Nous verrons comment. Troisièmement, une lecture historique. Et enfin, quatrièmement, une lecture philosophique. Voilà les quatre étapes. Évidemment, nous ne pouvons pas du tout les parcourir parce que ça peut nous retenir pendant toute l'année. C'est un long programme. Je vais simplement vous donner des directives et des indications. Mais pour que vous, ceux d'entre vous qui désirent approfondir ce problème, et évidemment, je pense que au moins les musulmans parmi vous doivent s'intéresser à cette question-là pour essayer de rompre avec les lieux communs qui, hélas, dominent lorsqu'on traite de ces problèmes, vous pouvez lire un certain nombre d'articles que j'ai déjà consacrés à cette question. En particulier, je vous demande de lire l'article qui s'intitule « Lecture de la Fatiha ». Lecture de la Fatiha. Que vous trouverez dans les mélanges d'islamologie. Mélange d'islamologie. Armand Abel. Armand Abel, comme Abel de la Bible. Publié à Leiden, L-E-Y-D-E, 1974, vous le trouverez à la bibliothèque. Alors, premièrement, donc, revenons sur les quatre points. Premièrement, la lecture pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire une lecture pragmatique? C'est une lecture qui utilise les directives du texte coranique lorsqu'elles sont claires, indiscutables, pour régler des problèmes pratiques de la cité. Sans se poser des problèmes au sujet de la validité des règles que l'on applique et au sujet de l'adéquation de ces règles aux besoins de la société et aux besoins de l'évolution de la société. Les juristes musulmans, lorsqu'ils lisent le verset sur, par exemple, la polygamie, le verset qui dit « Vous pouvez épouser une, deux, trois, quatre femmes à condition que vous soyez juste envers elles », bien, c'est une indication pratique. On la reçoit comme telle, et au surplus, c'est une indication, je vous le rappelle, qui, pour le musulman, vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un législateur humain. Donc, elle ne doit pas être discutée. Alors, on l'utilise comme étant une règle reçue comme une règle idéale. Alors, psychologiquement, il faut comprendre ce qui se passe dans l'esprit du musulman qui accueille cette règle et qui l'applique encore une fois pour régler des questions pratiques. Car le mariage, quoi de plus pratique et de plus courant dans n'importe quelle société. On se mariait partout, en Irak, en Syrie, etc., dès l'époque du prophète et après le prophète. Et on a là une règle pratique et elle fonctionne. De même pour les successions et pour la répudiation, etc. Ce sont des règles qui sont nettes et, encore une fois, qui peuvent permettre à la société de fonctionner. Et on ne s'interroge pas, je le répète, sur l'évolution, la non-évolution, etc. Ça, ce sont des problèmes actuels, ce sont des problèmes modernes, ce sont des conquêtes ultérieures. Évidemment, pour les esprits comme les nôtres, dès que nous entendons parler de polygamie, nous disons « mais c'est insupportable, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Alors, il faudrait se remettre dans le contexte de la société bédouine, dont je vous ai trop brièvement parlé, et dans le contexte des sociétés où l'alliance, je vous ai parlé de l'alliance entre les tribus, le hilf. L'alliance et les rapports de protection entre les tribus, se lier en particulier par l'intermédiaire du mariage. Le mariage a des fonctions politiques, il a des fonctions sociales, il n'a pas que des fonctions de reproduction. Alors, pour répondre et pour comprendre pourquoi ces règles ont fonctionné, encore une fois, de façon pragmatique, il faut étudier le fonctionnement des sociétés au Maghreb, par exemple, ou en Irak, ou en Syrie, etc., où ces règles ont été appliquées. Il ne faut pas regarder ces règles à travers la psychologie actuelle, les problèmes actuels, créés précisément par une histoire qui a changé. Et tout à l'heure, justement, nous verrons la lecture historique, comment utiliser ça du point de vue historique.
Il y a un problème, justement, pour... peut-être que c'est important de dire de traduction ou non. Par exemple, on amène la Kitaïmane.
Oui.
Là, dans la traduction, on trouve des concubines. Et là, on déduit aussi que le concubinage est une relation illicite et immorale est interdite dans la religion musulmane.
Que le concubinage est
Est une relation illicite et immorale.
Non, pas du tout. Non, Mamalakataïmanukum, c'est une expression figurée qui veut dire ce que vous possédez, les esclaves, les femmes non libres. Voilà encore une notion, n'est-ce pas? Une notion qui est extérieure à nos catégories modernes. Les hommes et les femmes libres et les hommes et les femmes esclaves. Il y a une condition juridique de la personne qui est esclave. Alors si vous regardez ces questions-là avec nos idées modernes actuelles, évidemment vous allez dire qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, c'est pas possible.
Ça, la question c'est que dans la traduction il a dit les concubines.
Oui.
Il n'a pas dit
oui.
Mais un type qui le lit seulement...
C'est faux, il ne faut pas dire les concubines.
Oui, c'est ça.
Non, il ne faut pas dire les concubines parce que les esclaves, où on peut en faire... avoir des rapports avec elle ou ne pas en avoir. Si on a des rapports avec elle, avec une esclave, elle devient à ce moment-là une concubine. Sinon, ça n'est pas une concubine. Et le verset en question vous dit, vous pouvez le faire. Ça ne veut pas...
Sous quelle forme?
Oui. Ben, vous avez une esclave.
Oui.
Eh bien, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elle et avoir des enfants avec elle.
Oui.
Mais elle ne sera pas votre épouse. Elle sera votre concubine. C'est un statut particulier.
Et les enfants?
Et les enfants seront ses enfants. Oui. Ils seront reconnus par lui. Et quand elle sera Oum Walad, c'est-à-dire quand elle aura un enfant mâle en particulier, à ce moment-là, il peut la franchir et elle va devenir une femme libre. À ce moment-là, il l'épouse légalement.
Comment ça se fait ça? C'est la première fois que j'entends. Pour les femmes esclaves, elle a le choix. Enfin, c'est le maître, elle a le choix. Déjà, c'est une manière pour la protéger, parce que s'il était comme ça, l'esclave, ça sera, je ne sais pas, elle va être pour tout le monde. Mais là, elle va être pour lui uniquement pour la protéger contre les autres. Mais riez pas, laissez-moi finir. Bon, déjà, si vraiment, s'il veut l'épouser, il pourrait l'épouser, il n'y a aucun problème. Et puis ses enfants, quoi qu'ils soient mal, quoi qu'ils soient...
Il peut la franchir, bien sûr.
Oui,
non, pour l'épouser, pour qu'elle devienne sa femme, il faut d'abord qu'il la franchisse.
Oui, c'est justement...
Yo, oui, c'est ça. Abla an yatazawaj biha.
Mais je croyais que l'islam avait aboli l'esclavage.
Oui,
il n'y a pas d'esclavage. Il avait condamné.
L'idéologie. Il n'a pas.
Il n'a pas condamné
pour la guerre.
Non. Il y a toujours eu des esclaves en islam. Il n'a pas condamné. Hélas, c'eût été trop beau. C'eût été très beau. Ce sont là des conquêtes modernes. Alors, s'il vous plaît, ne m'obligez pas chaque fois à rétablir le silence. C'est déjà assez fatigant pour parler comme je parle. Surtout lorsque je constate que j'ai l'impression de soulever l'Himalaya. Parce que je vous parle d'un certain nombre de problèmes et je constate que vous n'avez aucune espèce d'imagination historique. Aucune espèce d'imagination historique. Car enfin, pour que vous puissiez entrer dans ces problèmes, il faut que vous ayez un peu d'imagination historique pour vous transporter en dehors de notre univers actuel de pensée, en dehors de notre sensibilité actuelle, car la sensibilité a une histoire, elle change. Je suis comme vous, je ne peux pas supporter toutes ces histoires de polygamie, d'esclavage, etc. Mais enfin, il faut considérer que ce sont là des conquêtes récentes et que l'esclavage d'ailleurs, dans nos sociétés, subsiste sous d'autres formes, cachées. Alors il ne faut pas monter sur ces grands chevaux, n'est-ce pas, pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette société et qu'est-ce que c'est que cette législation.
Mais ce n'est pas d'un point de vue moderne, monsieur. Si déjà avant, il ne peut pas exister de contradiction dans le Coran. Or si...
Vous voyez.
Bon,
mais non. Bon, c'est assez désespérant. Oui, ça viendra, ça ne viendra pas tout seul, hein. Ça, ce sont des choses qui ne changent pas du jour au lendemain. Il faut vraiment y mettre énormément de... Oui, bon, pour la question de la lecture linguistique, j'avais préparé quelque chose qui, je le crains, va nous demander du temps. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez lu la sourate Nisa, que c'était un désordre dans lequel il était question de tout et de rien, et qu'il était impossible d'y trouver un fil directeur. Ceci est évidemment exact, c'est l'impression que reçoit le lecteur de prime abord, qui n'est pas du tout habitué à prendre contact avec un texte qui n'a pas été écrit, conçu, composé selon les règles de la rhétorique aristotélicienne. Car dans le système éducatif en France, par exemple, au lycée, on vous apprend à composer des dissertations avec une introduction, un développement en deux ou trois parties, et puis une conclusion, et tout cela bien articulé avec les idées qui se suivent, etc. Ça, c'est la rhétorique qui date d'Aristote. Mais il y a d'autres rhétoriques. La rhétorique d'Aristote est une rhétorique parmi d'autres. Et dans ce texte coranique qui vous apparaît un texte désordonné, on peut découvrir un ordre profond, un ordre logique profond, si l'on sait en faire une analyse, non pas en essayant de dégager un plan, de repérer des parties, mais en regardant comment fonctionne le lexique coranique, le lexique du Coran. Le Coran, bien entendu, se sert d'un certain vocabulaire. Et par exemple, si nous prenons la sourate Nisa, nous rendons compte que le mot « amwal » qui est le pluriel de mal, amouel, pluriel de mal, est un mot qui revient souvent. Et c'est précisément, on peut dire, le centre même, le sujet de la sourate, puisque les problèmes de succession, les problèmes de mariage, etc., les problèmes de, des biens des orphelins qu'il faut leur donner, les pauvres qu'il faut secourir, tout cela tourne autour de l'idée de biens, des possessions. Alors on peut se demander, quel est le statut du bien d'après la sourate du Coran? Comment peut-on définir le statut des biens matériels? Tous les biens que l'homme peut posséder et qui font l'objet justement d'échanges entre les hommes et qui font l'objet de toute la vie économique et sociale et par conséquent qui font l'objet de toute une réglementation juridique. Vous voyez par conséquent qu'une lecture attentive peut déceler un point d'attaque qui permet de reconstituer une logique interne cachée et que l'on ne peut pas trouver si l'on utilise les procédés habituels d'analyse d'un texte. Et précisément, lorsque nous analysons la place du mot « amwal » dans le lexique coranique, nous pouvons reconstruire à partir du mot amwal un système de relations lexicales, un système de relations entre les mots qui composent le discours coranique, dont se sert le discours coranique. Et ce système des relations lexicales nous permet de reconstituer un système de signification, c'est-à-dire en définitive la vision coranique de la notion de bien qui, comme vous le verrez, je vous donnerai le schéma, comme vous le verrez, est une vision tout à fait particulière, qui ne peut pas être réduite, par exemple, à la vision moderne des biens tels que les analyse l'économiste moderne. Autrement dit, nous pouvons, à partir du mot bien, du mot amwal, découvrir la vision coranique du monde à l'intérieur de laquelle se situe la vision ou le statut des biens, le statut de l'avoir. Alors voilà un sujet d'étude, le statut de l'avoir, j'emploie exprès l'infinitif pour dégager une catégorie. L'avoir, c'est une catégorie, comme le pouvoir est une catégorie, le valoir est une catégorie, le culturel est une catégorie. Eh bien, l'avoir, c'est toute la catégorie qui relève de l'économie. C'est une vaste catégorie. Et il vaut la peine de l'étudier, par conséquent, dans le Coran. Quel est son statut et comment s'intègre-t-elle dans la vision coranique générale du monde et les conceptions générales que nous livre le Coran? Et vous voyez que si nous abordons l'étude du fonctionnement du discours coranique à travers cette analyse, qui est une analyse cette fois linguistique, elle n'est pas théologique, elle n'est pas, etc. C'est une analyse par conséquent concrète, qui repose sur un texte concret que nous lisons. On n'invente rien. Nous arrivons à nous faire une idée historique, précise, de ce que signifiait la catégorie de l'avoir pour la pensée musulmane au 1er, 2e et 3e siècle de l'Égypte. Et comment cette notion a fonctionné dans l'ensemble de la société? Et si nous arrivons à avoir cette notion historique exacte, à ce moment-là, nous ne dirions plus les bêtises que nous avons entendues tout à l'heure au sujet de la législation coranique portant soit sur les biens, soit sur des problèmes annexes. Alors, malheureusement, l'heure est passée. Et j'ai un texte que vous pouvez trouver d'ailleurs pour gagner du temps. Dans le texte là, que je vous ai indiqué dans le petit livre, je vous demande de prendre la page. Voilà. Il y a ici un schéma à la page 19. Je vous demande de reprendre le schéma de la page 19, de l'étudier afin de me faciliter la tâche pour vous exposer la notion de mal telle qu'elle fonctionne dans le Coran. Thank you.